Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Mélanie Chalandon et Bertille Bourdon, mais aussi Margot Leridon et Nicolas Sendé, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Nasser Moussaoui. Et comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du monde. Bonjour Marc Semo.
Bonjour.
Et cette semaine, nous allons parler de l'Europe. La Commission européenne présentait son nouveau pacte sur la migration et l'asile avec l'objectif de remplacer le très controversé règlement de Dublin et d'organiser la solidarité des États membres qui a fait tant défaut ces dernières années. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a défendu un équilibre juste et raisonnable entre responsabilité et solidarité, a-t-elle déclaré. La commissaire européenne aux affaires intérieures a ajouté « ce doit être obligatoire, tous les États membres doivent aider quand il y a une situation où un État membre est sous pression, lorsqu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de protection ». Alors 5 ans après la crise des réfugiés de 2015, une quinzaine de jours après l'incendie du camp de Moria sur l'île de Lesbos, l'Union européenne a-t-elle trouvé la solution? D'ailleurs, que prévoit précisément ce nouveau plan? La Commission a-t-elle vraiment trouvé la recette pour construire un mécanisme de solidarité obligatoire? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin Virginie Guiraudon. Guiraudon, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, vous êtes enseignante au Centre d'études européennes de Sciences Po. Avec nous également Mathieu Tardis, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes chercheur au Centre Migration et Citoyenneté de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Avant d'ouvrir ces questions avec nous, on va, comme chaque vendredi, commencer avec notre retour d'eux en partenariat avec l'Association des prix Albert Londres. La journaliste qu'on reçoit ce matin nous revient de Centrafrique.
Mon arme, c'était celle de ma base. C'était une Kalachnikov. Il tirait, on se couchait, et il tirait, et on se couchait. Eux, ils dominaient parce qu'ils avaient des munitions. Mais nous, on n'en avait pas assez. Ils avaient des armes lourdes et beaucoup de grenades, énormément de grenades. Donc on a eu beaucoup de pertes. Au moment où ils ont lancé les grenades, je me suis cachée derrière un palmier.
Souvenir de guerre de Rosine qui, encore enfant, avait pris les armes pendant la guerre civile en Centrafrique. Bonjour Constance de Bonaventure.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste indépendante. On vous reçoit pour ce reportage qui a été co-réalisé avec Claire Billet, qui sera diffusé dans Arte Reportage demain. Quelques éléments de cadrage pour les auditeurs. 2013, le pays bascule dans la violence après le renversement de François Bozizé, arrivé au pouvoir lui 10 ans plus tôt, par les rebelles donc de la Séléka, conduit à l'époque par Michel Djotodia, qui avait lui aussi dû finalement quitter le pouvoir. On a ensuite une longue séquence d'affrontements et d'exactions absolument terribles qui s'étaient ouvertes entre, d'un côté, les forces de la Séléka, Séléka qui veut dire coalition en sango, qui sont globalement des forces pro-musulmanes, et puis en face, des anti-Balaka, qui eux sont une myriade en réalité de groupes qui sont formés à l'origine de chrétiens, de paysans chrétiens de l'ouest du pays. Et puis au milieu de ce théâtre d'horreur, eh bien des enfants soldats esselés après les attaques des villages où ils ont perdu leur famille et finalement contraints d'aller trouver refuge d'une certaine manière auprès de ces groupes. Parmi ces enfants soldats, 40% de filles. Pourquoi est-ce que vous avez voulu, Constance de Bonaventure, vous intéresser en particulier sur leur sort?
Parce que vous le disiez, en fait, on a d'abord vu un rapport des Nations Unies. Alors, je ne sais plus exactement de quand il date. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'était 2012, qui disait 40% des enfants soldats dans le monde sont des filles, ce qui représente 150 000 enfants, 150 000 filles dans le monde qui ont pris les armes. En Centrafrique, elles sont très nombreuses. Je ne sais pas si le chiffre de 40% est aussi pour la Centrafrique, mais en tout cas, c'est au moins 40%, voire plus. Et en fait, on s'est dit, c'est vrai que les garçons, ça nous paraît évident, qui prennent les armes, qui rejoignent des groupes, etc. On a tous en tête des images de groupes armés avec des enfants garçons jeunes. Et c'est vrai que les filles, on s'y intéresse moins en général, parce que c'est les filles, et on le voit dans le reportage, à part Rosine bien sûr, mais les filles prennent moins les armes que les garçons. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on les oublie, parce qu'on se dit, bon, elles n'ont pas pris les armes, donc en fait, c'est un petit peu moins grave. Mmh. Sauf qu'en fait, ces filles, elles font ce que tous les militaires peuvent faire dans une armée régulière ou classique, hein, comme l'armée française, par exemple. Il y a des femmes, et les filles, dans ces groupes armés, eh ben, elles ont un rôle, elles ont une utilité. Ça peut être faire le ménage, ça peut être aller chercher, récupérer les effets personnels sur les corps. Il y en a beaucoup aussi parmi elles, on n'a pas pu en parler, mais qui étaient là pour aller mettre, pour faire des gris-gris. Ce qui est très important là-bas en Centrafrique. Donc c'est un rôle primordial. Et voilà, on a voulu aussi donner la parole à ces filles qui, en fait, tout autant que les petits garçons, ont beaucoup souffert et ont aussi... Et d'ailleurs, voilà aussi pourquoi on s'y intéressait d'un peu plus près, c'est parce que ces filles, elles ont beaucoup plus de difficultés à se réintégrer dans la société que les garçons. Et le reportage porte vraiment sur la réintégration.
On va revenir évidemment sur cette question qui est absolument cruciale, mais d'abord peut-être un mot sur Rosine, dont on vient d'entendre la voix. Alias Roscoe, comment est-ce qu'elle s'est retrouvée à s'engager dans les rangs des anti-malakas?
Alors Rosine, elle, et son cas n'est pas seul, enfin il y a beaucoup de cas comme le sien. Rosine, elle s'est engagée volontairement parce qu'elle voulait venger la mort de son père. En fait, beaucoup d'enfants là-bas ont vu leurs parents assassinés sous leurs yeux. Et c'est le cas de Rosine, elle a vu sa maison brûler et son père assassiné. Et elle était peut-être aussi plus âgée que les autres filles qu'on a rencontrées au moment des faits. Donc elle était une adolescente, elle était consciente de ce qui se passait. Et peut-être que du coup, elle a eu cette envie de vengeance aussi qui était peut-être plus importante chez elle que ça aurait pu l'être chez une fille plus jeune. Et donc, elle a eu vraiment envie de se venger. Et elle a sciemment rejoint un groupe où elle savait qu'ils étaient armés et qu'on allait lui donner des armes, en fait. Mmh. Donc, c'est vraiment ce qu'elle a voulu et c'était vraiment la vengeance.
Comment se passe son quotidien aujourd'hui? Parce que vous racontez très bien dans votre reportage combien les tout débuts, même au sein de la famille, ont été difficiles. Elle faisait peur à ses frères, raconte-t-elle. Comment ça se passe aujourd'hui?
Aujourd'hui, c'est dur. On le voit, je trouve, dans le reportage, et puis évidemment, en la fréquentant comme on l'a fait, c'est dur parce que, donc déjà, il y a cette méfiance de la famille qui, bien sûr, s'est un peu dissipée, mais qui est quand même toujours un petit peu là. Hein. Une fille qui a pris les armes et qui a vu du sang, c'est quand même... c'est quand même plus compliqué qu'un garçon. C'est pas normal, en fait. Donc, déjà, il y a cette réticence de la famille. Même si, encore une fois, elle s'est dissipée, on le voit. Mais c'est vraiment l'entourage. Enfin, c'est les voisins. On la montre du doigt, on la regarde bizarrement. En plus, elle a un petit côté garçon manqué. Donc, c'est étrange aux yeux des autres. Et puis, elle en parle aussi. C'est sa vie sentimentale. C'est très compliqué. En fait, elle n'arrive pas à trouver de fiancé stable. Parce que, elle le dit, les hommes ont peur d'elle. Mmh. Ils ont peur que je les égorge la nuit. Soit je leur dis pas, mais du coup je cache quand même une grosse partie de mon passé qui fait partie de moi. Mais si je leur dis, ils partent en courant.
Mmh. En retour, il y a aussi des craintes du côté de sa maman, qui elle a peur qu'on vienne la tuer, parce que évidemment l'impunité étant assez largement la règle en la matière.
Bien sûr,
c'est la loi du talion.
Mais ça aussi, c'est primordial. C'est vraiment. Et si ça recommence demain, parce que c'est quand même. Probable, enfin ça peut arriver en Centrafrique, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Donc si ça recommence demain, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il n'y a pas les groupes, les milices adverses qui vont venir se venger, etc. Il y a quand même cette vengeance, cette peur qui rôde en Centrafrique, qui est vraiment palpable. Donc ça, c'est bien sûr, c'est important aussi.
Il y a eu en février 2019 un accord de paix qui a été signé à Bangui sous l'égide des Nations Unies, sous l'égide de la MINUSCA, qui est la mission d'intervention des Nations Unies. Que dit l'accord et que dit-il en particulier pour ces fameux enfants soldats?
Alors l'accord, c'est des négociations de paix en fait, qui sont entamées entre, je crois, 14 milices et les Nations Unies. La MINUSCA, il dit beaucoup de choses. Il y a beaucoup, enfin, il y a énormément de choses qui sont dans cet accord. Sur les enfants soldats, ce que je peux vous dire, c'est que, en fait, la libération des enfants soldats est une condition sine qua non pour signer ces accords avec les chefs de guerre. C'est-à-dire qu'un chef de guerre, s'il veut signer l'accord de paix et les accords avec la MINUSCA va dépêcher une délégation qui va exiger le retour et la libération, on dit plutôt démobilisation là-bas, la démobilisation de ces enfants soldats.
Mmh. Donc, on dit démobilisation, c'est le terme onusien, mais en réalité, on est bien dans le cas de libération, parce que beaucoup, en tout cas, c'est ce que certains vous ont raconté, beaucoup sont quasiment séquestrés.
Alors, libération, justement, ça implique qu'ils soient séquestrés. Or...
Ça dépend desquels, mais enfin, il y en a... Vous rencontrez, par exemple, Marie-Claire. Marie-Claire, elle vous raconte qu'elle essaye de partir une première fois, qu'elle est rattrapée et qu'on la bat.
Oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au début, en tout cas, et c'est toutes les filles, pas uniquement celles qu'on a rencontrées pour le reportage, mais toutes celles qu'on a vues autour, c'est un peu le même scénario. C'est-à-dire, je me retrouve toute seule, mes parents ont été tués, ou alors ils ont fui parce que le village était brûlé. Je suis seule dans mon village, dans la brousse, je vois un groupe qui passe à côté de moi, avec mon cousin qui est dans ce groupe, mon frère. Et eh ben qu'est-ce que je fais? Je vais dans le groupe. Donc c'est pas, on va pas chercher les petites filles, on les kidnappe pas. Il y a pas de, enfin en tout cas peu de kidnapping pour ce genre de cas. Non, les enfants, les jeunes qui sont démunis, ce qui est tout à fait naturel en fait. On est seul, on n'a plus de parents. On va dans le groupe où il y a son cousin ou dans le groupe qui appartient à sa communauté. Donc ça se passe comme ça. Après c'est vrai qu'une fois qu'elles sont dans le groupe, c'est plus ou moins compliqué d'en sortir, c'est sûr.
Est-ce que justement ils acceptent aujourd'hui, ces chefs de milice, ces démobilisations, à prendre le terme onusien, vous êtes rendu notamment dans un petit village 500 km au nord de Bangui, Pawa, vous suivez l'employée de la MINUSCA qui justement elle se déplace de village en village pour aller rencontrer ces chefs de milice. Comment se passe cette démobilisation, puisque c'est le terme qu'il faut utiliser?
Alors, donc tout ça, c'est très chapeauté par la MINUSCA. Ils demandent des listes. La MINUSCA demande des listes aux chefs de guerre, des listes d'enfants. Ces listes sont vérifiées par la MINUSCA. Il faut bien sûr vérifier que l'âge des enfants, l'identité des enfants, etc. Et ensuite, le chef de guerre donne ou non son accord sur la libération de ses enfants. Évidemment, il y a des entre guillemets une monnaie d'échange. Hein. Il y a tout un tas d'accords. Cette libération d'enfants, elle se fait évidemment dans le cadre d'accords beaucoup plus importants. C'est une condition. Et ensuite, il y a des. Alors malheureusement, on n'a pas pu assister à ça. Ensuite, il y a des célébrations de démobilisation qui se passent apparemment en grande pompe, où on a le chef, le milicien, s'il veut, en tout cas qui est invité, avec toutes les autorités locales et tous ces enfants qui sont démobilisés à l'issue de cette célébration. Et ensuite, en fonction de leurs âges, ils sont pris en charge de toute façon tous par des ONG. Et en fonction de leurs âges, eh bien, on va soit leur proposer une scolarité, ou soit une formation professionnelle.
Alors, par exemple, pour Marie-Claire, qui est relativement jeune, qui est âgée de 14 ans, elle, c'est direction l'école. Comment ça se passe à l'école?
Pour Marie-Claire, c'est direction l'école. Alors, à l'école, on ne dit pas, enfin, c'est très rare, hein, les filles ne disent pas qu'elles ont été dans des groupes, pour toutes les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, la réputation, etc. Donc, mais le directeur qu'on voit dans le reportage nous dit qu'en fait, ils sont assez nombreux. Hein, le directeur est au courant, il y a quand même beaucoup d'enfants qui sont passés dans les groupes armés. À l'école, ça se passe comme ça peut se passer là-bas, c'est-à-dire qu'ils sont 45 dans la classe, que ça reste un univers quand même assez violent.
Oui,
assez...
à ceci près qu'il y a un programme de sensibilisation à la violence et d'éducation à la paix qui est mis en place.
Oui, il y a un programme. Après, qu'est-ce que ça va donner? C'est quand même la grande question qu'on se pose, nous, qu'on s'est posé avec Claire Billet, qu'on se pose encore, et la grande question que se pose tout le monde, qu'est-ce que ça va donner tout ça?
D'autant que pour distiller évidemment ce programme, il faut pouvoir avoir des professeurs. Or, dans le pays...
Voilà, là, quand on y était, il y avait grève générale parce que les professeurs ne pouvaient pas être payés. Donc c'est le directeur qu'on voit qui assurait les cours, qui assurait 5 minutes de cours dans la classe de Marie-Claire, ensuite qui allait dans la classe de CE2, etc. Et il y avait, je ne sais plus combien d'élèves, mais c'était plusieurs centaines d'élèves dans cette école, il était tout seul pour enseigner à ses enfants. Donc c'est quand même pas, voilà, c'est pas stable. C'est pas...
Oui, on a un état à construire, à reconstruire.
Exactement.
Alors pour les plus âgés, vous avez rencontré Noëlla, qui est une jeune fille qui suit une formation de couture dans un atelier. Elle peut espérer s'en sortir, Noëlla? C'est sur la bonne voie?
Ouais, c'est sur la bonne voie, parce que c'est quand même vraiment très bien... Tout ça est très bien organisé, c'est-à-dire...
Toujours par l'ONU.
Voilà, toujours. Tout est encadré par l'ONU, qui ensuite, l'ONU elle-même, on n'est pas rentré dans les détails dans le reportage, parce que c'est tout un processus assez, assez complexe, mais l'ONU ensuite délègue à toutes les ONG qui sont basées en Centrafrique, telle ou telle mission. Donc telle ONG va s'occuper de la scolarité des enfants, telle autre ONG va s'occuper de la formation professionnelle. Et donc c'est quand même vraiment, enfin c'est assez bien organisé. Et Noëlla, elle a pu bénéficier d'une formation de 3 mois pour être couturière. Donc il y a plusieurs formations professionnelles qui sont proposées en fonction des âges, etc., et des goûts de chacun. Et Noëlla a voulu avoir son échoppe, sa boutique de couturière. Et donc, elle a pu se faire financer sa machine à coudre. Et bon, c'est vrai que là-bas, tout le monde se fait coudre ses vêtements dans la rue, etc. Donc c'est un métier quand même qui a de l'avenir, enfin qui permet de gagner correctement sa vie. Donc pour Noëlla, ça a l'air bien parti, professionnellement. En revanche, on le voit aussi dans le reportage, c'est une jeune femme qui est assez seule, qui vit avec sa grand-mère. On n'a pas réussi à comprendre exactement pourquoi elle n'est pas retournée chez ses parents, mais on sent que
ils n'en veulent pas.
Ils n'en veulent pas. Enfin, elle ne l'a pas dit comme ça, donc je ne me permettrai pas de le dire à sa place, mais on sent qu'il y a quelque chose qui se passe mal. C'est ça, elle vit avec sa grand-mère, elle n'a pas d'amis. Les filles disent quand même du mal d'elle, etc. Donc c'est compliqué. Les gens savent.
C'est compliqué et encore c'est ce qu'il se passe pour les meilleurs cas en réalité, parce qu'il y a d'autres cas, des enfants qui en réalité retournent dans les bras des groupes armés.
Voilà, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on ne sait pas vraiment ce que ça va donner, qu'est-ce qui va se passer si il y a de nouveau une crise très très importante en Centrafrique et si tous ces systèmes, tout ce qui a été mis en place se retrouve par terre. Qu'est-ce qu'elles vont faire, ces filles ?
On a une idée du taux d'échec, du nombre de garçons et de filles qui retournent dans les rangs des groupes armés ?
On a posé la question aux ONG, c'est quelque chose qui les préoccupe, qui les concerne, mais ils n'ont pas de chiffres, ils n'ont pas de taux d'échec.
Peut-être un tout dernier mot pour évoquer évidemment la situation politique actuelle, parce que il y a des élections qui vont venir très bientôt dans le pays, ce sera en décembre prochain. Alors j'ai fait un peu le point pour préparer cet entretien avec vous sur les candidats. Il y a évidemment l'actuel président Faustin Archange Touadéra qui est candidat à sa reconduction, mais il aura des rivaux, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a l'ancien président François Bozizé dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a l'ancien premier ministre Martin Ziegele, on a également l'ancienne présidente qui avait conduit la transition de 2014 à 2016, Catherine Samba-Panza, et puis depuis quelques jours on a même un ancien président qui est de retour d'exil, qui est Michel Dotodja. Donc en gros, on a à peu près tous ceux qui ont fait la vie politique du pays ces 20 dernières années. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre ? Est-ce qu'une nouvelle éruption de violence est à craindre ?
Alors déjà, il y a encore, ce qu'il faut préciser, c'est qu'il y a encore quand même beaucoup de violence aujourd'hui dans le pays. Quasiment les deux tiers du pays sont encore en proie à des violences quotidiennes. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. Tout ça, et même les zones où il n'y a pas forcément de violence, c'est très latent en fait. C'est très latent. On a l'impression qu'il suffit de mettre une étincelle et que tout va prendre feu. Les prochaines élections, pour l'instant, c'est ça. On est dans un contexte assez incertain. Parce que vous le disiez, il y a Bozizé qui est rentré de son exil, Dotodja aussi. Bozizé, c'était le candidat. On ne va pas rentrer en détail parce que c'est très compliqué, mais des anti-Balaka, Dotodja des Séléka. Bozizé, il a été sanctionné par les Nations Unies quand même pour crime contre l'humanité. Donc voilà, c'est quand même, ça donne quand même des éléments de contexte pour se dire voilà, on a deux. Je ne cite que parce que voilà, on a ces deux présidents qui reviennent au pays quelques mois avant les élections, qui ont été soutenus par des factions qui étaient des acteurs moteurs dans cette crise. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Je pense que c'est gros point d'interrogation.
D'ailleurs, j'en profite pour dire aux auditeurs que la semaine prochaine, on va s'intéresser à toute une série d'élections qui vont se dérouler en Afrique, parce qu'il y a effectivement la Centrafrique, mais il y a évidemment la Côte d'Ivoire qui préoccupe beaucoup. On fera toute une semaine consacrée à l'Afrique la semaine prochaine. Merci beaucoup, Constance de Bonaventure. Votre reportage, donc, à retrouver demain dans Arte Reportage, c'est 18h45.
18h35.
35, co-réalisé avec Claire Billet, et le titre « Centrafrique, le retour des filles soldats ». Merci beaucoup.
Cesse de pleurnicher sans trop, la faute n'est pas aux autres. Cherche de chercher, frérot, nos bourreaux sont parmi les nôtres. Le problème c'est nous, la solution en nous. À vous, on a touché le fond, un point c'est tout. Nos dirigeants, une bande de brigands en cravate, voleurs à plein temps. Mon Dieu, certains frères se sont réfugiés. Ok, c'est bien, mais sache qu'il nous a déjà tout donné. Un pays riche et beau où il pleut presque toute l'année. Redescend sur terre, cadence ténèbres. La seule lumière est celle dans les yeux de nos enfants qui comptent sur nos parents indignes, stupides et méchants. Alors chance, sista, ce sont de la dernière chance.
Allez, on quitte la Centrafrique, on revient du côté de l'Union européenne avec ce nouveau pacte migration-asile vers la solidarité obligatoire. C'est la question qu'on se pose ce matin dans Culture Monde.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Quelques semaines après l'incendie du camp de Moria en Grèce et alors que les bateaux humanitaires patrouillent au large des côtes pour tenter de sauver des candidats à l'exil, le nouveau pacte migration et asile européen était très attendu. Il a été présenté cette semaine par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen.
La Commission propose de construire à partir des différentes situations géographiques, des différentes capacités et selon les choix des États membres, mais aussi en prenant en compte la pression différente à nos frontières. La question n'est pas de savoir si les États membres doivent soutenir la solidarité et les contributions, mais comment ils peuvent apporter leur soutien. Moria est un rappel tragique, nous devons trouver des solutions durables et nous devons tous intensifier nos efforts.
Alors, que prévoit précisément cette réforme de la politique migratoire? Peut-elle changer la donne pour les migrants? Et la solidarité qui a tant fait défaut jusque-là est-elle au rendez-vous? Pour évoquer toutes ces questions, je les ai déjà accueillies, mais je le rappelle, Virginie Guiraudon et Mathieu Tardis sont nos invités. Merci encore d'être avec nous ce matin. Marc Sémo, notre partenaire du Monde, on commence avec vous comme chaque vendredi. Ça faisait longtemps qu'on attendait, évidemment, Marc, une réforme de la politique migratoire de l'Union. Ça fait longtemps qu'on répète combien ce fameux règlement de Dublin pose problème. On a évidemment des pays, ceux qui sont en première ligne, l'Italie, la Grèce, Malte, qui n'arrêtent pas de dire qu'il faut absolument réformer tout ça, mais on a l'impression quand même que ce nouveau pacte, en réalité, il satisfait personne. Pas vraiment les pays qui sont en première ligne, pas vraiment les récalcitrants, pas vraiment les ONG. Au fond, on a le sentiment que ce nouveau pacte ne convient pas vraiment, qu'on a cherché un consensus, mais que ça conviendrait même peut-être tellement pas qu'on pourrait peut-être même penser ne pas l'appliquer, finalement, Marc Sémo.
C'est un compromis comme bon nombre de décisions européennes. Alors oui, il y a un aspect, incontestable victoire pour le Hongrois Viktor Orban et ses homologues populistes. Dans ce pacte, la Commission européenne renonce de fait définitivement à son mécanisme de répartition obligatoire des demandeurs d'asile entre les 27 États membres. Et on essaie de trouver cet équilibre, selon les mots de Ursula von der Leyen, entre solidarité et responsabilité. Alors cela signifie bien sûr, comme tu le disais, revoir le mécanisme de Dublin qui oblige les pays de première entrée à examiner les demandes d'asile, ce qui crée des situations insoutenables en Grèce, en Italie, etc. Et dans tous ces pays dits de la ligne de front face aux migrations. Bon, c'est fait, en contournant la difficulté, les pays qui ne veulent pas accueillir des quotas de migrants contribueront autrement à l'effort commun, par exemple en assurant les frais de rapatriement. Alors, la grande vague migratoire de 2015 avait sérieusement secoué et divisé l'Union européenne entre une Allemagne, par exemple avec Angela Merkel, qui avait accueilli plus d'un million de migrants, et ceux qui, tels la Hongrie de Orban, se barricadaient. Les fractures entre les deux Europes, celle de l'Ouest et celle de l'Est, ont des racines profondes. Ce sont deux conceptions différentes de la nation. D'un côté, une conception ouverte, inclusive, même s'il y a des poussées populistes, et de l'autre, une conception plus identitaire et repliée. Mais il fallait trouver un terrain d'entente. Ce pacte doit être entériné par une majorité qualifiée, ce qui signifie 55% des États et 65% des populations de l'Union. Cela n'avait pas de sens non plus de obliger les migrants à aller s'installer dans des pays qui ne veulent pas d'eux. Je n'aimerais pas être un migrant syrien que l'on envoie de force en Hongrie aujourd'hui, d'autant que dans ces pays-là, ils n'avaient pas des réseaux d'amitié de proches. C'était une toute première pierre vers une politique commune, mais on est encore très loin de cette politique commune d'asile indispensable, mais introuvable.
Alors voilà, le décor est posé. Virginie Guiraudon, est-ce que vous pensez que ce nouveau pacte, on va décrire un peu les choses, mais d'abord, première impression un peu générale l'un et l'autre, est-ce que vous pensez qu'il pourrait être appliqué? Parce que c'est pas la première fois qu'on trouve un accord sur cette question migratoire. On se souvient évidemment de celui trouvé par la Commission en 2015 avec cette fameuse clé de répartition, sauf que quand on regarde les choses a posteriori, on se rend compte que ça n'avait pas vraiment été appliqué, tout ça. Est-ce que vous pensez que ce pacte peut l'être aujourd'hui?
Alors, c'est un pacte, donc c'est en fait une feuille de route. Hein, donc, ce n'est pas encore déjà quelque chose à appliquer. Ça veut dire que ça va prendre alors des années, pour certains textes, à être effectivement adoptés par le Conseil et le Parlement. D'autres choses pourront être faites plus vite, mais là, on est vraiment encore dans l'ordre de la feuille de route.
Oui, mais c'est quoi comme délai? Un ordre d'idée?
La Commission est là pour encore 4 ans et demi, mais enfin, je pense que l'idée, c'est qu'il faut que ça soit adopté rapidement, c'est ce qu'a dit la commissaire. Hein. Mais ça, il y a révisé plusieurs directives comme Dublin 3, etc., la directive retour, ça va prendre du temps. Donc, pensez que vous êtes à Moria, pensez aux 10 000 personnes encore là, il n'y a pas de solution demain absolument pour eux. Après, pour effectivement, est-ce que ça peut échouer? C'est une possibilité, mais c'était vraiment l'enjeu de dire il y a eu un blocage entre 2015 et 2020. Donc de trouver, alors oui, le mot compromis, le plus un certain flou, une espèce de notre façon de voir les choses pour espérer d'éviter le blocage, mais tout en restant dans la continuité des objectifs qui sont toujours qu'il y ait de moins en moins de demandeurs d'asile, de moins en moins de personnes qui arrivent par le sud de l'Europe. Donc c'est pas un pacte sur l'immigration et l'asile, je veux être très claire pour les auditeurs, c'est un pacte qui essentiellement concerne les 140 000 personnes qui sont arrivées par la mer ou par voie terrestre du sud de l'Europe, par le sud de l'Europe, et pas toutes les personnes qui arrivent en Europe chaque année avec de façon légale. Donc on se focalise sur cette question-là, avec des nouveautés comme le parrainage, des retours, c'est-à-dire des choses
importantes. On va y revenir. Mathieu Tardis, de façon générale, vous y croyez, cette feuille de route, on peut aller au bout?
Il y a deux choses. La Commission a proposé des nouvelles notions qui sont dans la continuité de ces 20 dernières années, parce que ce chantier de la politique européenne d'asile et d'immigration, il a commencé en 99, faut pas l'oublier. Donc on reprend des concepts qui sont extrêmement abstraits, complexes.
Vous pensez à quoi? La solidarité obligatoire, par exemple?
C'est solidarité obligatoire, solidarité flexible, mais y compris ces mécanismes de sélection aux frontières extérieures, qui sur le papier ont une cohérence. Enfin, je parle pas de la question des droits des personnes, la dignité des personnes sur le papier une certaine cohérence, mais après il y a le principe de réalité qui va s'appliquer concrètement sur le terrain. Il y a des gens derrière, il y a des États, ça reste les États qui sont responsables de ces procédures. Il n'y a pas une procédure européenne d'asile et les États sont contre encore aujourd'hui. Donc il faudra faire face au principe de réalité. Les propositions de la Commission sont déjà complexes. Il va falloir passer par le Parlement européen et par les États membres. C'est-à-dire qu'on va rajouter certainement des points dérogatoires, de la complexité. Au final, ces mesures, même si elles sont adoptées, je pense qu'elles seront inapplicables, concrètement. Et deuxième point, je pense qu'en fait, l'enjeu de ce pacte n'est plus du tout l'immigration. La question migratoire, c'est plus la question aujourd'hui. Et Virginie veut le rappeler, là on parle de 140 000 personnes qui sont arrivées sur les côtes européennes en 2019 et en 2020, ça sera encore moins du fait de la situation aussi du Covid. Mais l'enjeu n'est plus celui-là. L'enjeu, c'est de savoir comment on arrive à faire fonctionner l'Union européenne avec des gouvernements populistes, c'est-à-dire qui ne jouent pas le jeu du compromis, du consensus, qui est la règle de base de la prise de décision au niveau européen, faire des compromis, parce que c'est l'intérêt européen. Donc là, on peut plus fonctionner de cette manière-là. Et je pense que l'erreur de la Commission européenne, c'est d'essayer de fonctionner comme avant. Et c'est pas simple. Je dis pas que j'ai pas la solution moi-même. Mais il faut trouver une nouvelle méthode de fonctionnement et de prise de décision au niveau de l'Union européenne. Parce que la première réaction d'Orban hier a été non, nous on veut pas, parce que finalement, ce pacte continue d'organiser l'immigration. Et nous, tout ce que l'on veut, c'est à arrêter l'immigration. Et finalement, la Hongrie n'est pas concernée par l'immigration, comme vous le disiez à Marc Simon, aucun migrant ne veut aller en Hongrie. Donc ils ne sont pas vraiment concernés, en tout cas par cette immigration dite perçue comme musulmane, parce que au final c'est ça la question aussi. Mais là, on est dans un jeu de politique interne pour Orban ou pour le gouvernement polonais. Aujourd'hui, ça concerne principalement ces deux pays. Demain, ça peut concerner d'autres pays, y compris à l'Ouest. C'est-à-dire les gouvernements populistes, ils sont au pouvoir en Autriche, ils l'ont été en Italie. Donc là, on va répondre à une solution, à une situation très actuelle, avec deux pays qui sont contre. Mais demain, il y en aura peut-être plus en Union européenne. Et comment on fonctionne, finalement? Comment fonctionne l'Union européenne avec ce type de gouvernement?
Marc Semo, puis ensuite Virginie Gardon.
Bon, ils ont eu cette victoire symbolique, ce qui n'aura plus les quotas obligatoires de répartition, mais de l'autre, pour prendre le symbole de l'autre sens, une des conquêtes, ou un des pas de ce pacte, c'est aussi le fait qu'il n'y aura plus de criminalisation du sauvetage en mer. Ce qui est quand même, alors bon, c'est purement symbolique, mais c'est quand même quelque chose. Qu'on voit ce qui s'était passé en Italie, où sous la pression de la Ligue, on lançait des procédures contre ceux qui aidaient les migrants en mer. Est-ce que c'est pas là-dessus, au moins au niveau
qu'on a avancé.
Du drapeau, une petite chose?
Virginie Guéraudon.
Oui.
C'est vrai, c'est moi, ça, c'est
alors,
déjà
moi,
ça
de prix. Alors, c'est le point que j'ai réussi à trouver, effectivement, où il y a une avancée, alors, qui justement ne concerne pas tous les États membres. Ce qui s'est passé de ces dernières années, outre, alors évidemment, la situation avec Salvini, qui avait fermé les ports. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait toujours quelques pays, toujours les mêmes, un petit peu.
Qui d'ailleurs doit faire face à un procès qui va s'ouvrir très bientôt. Je ferme la parenthèse, Salvini.
Oui, sur tout ce à point. Fait. Donc, il y avait quelques pays, toujours, qui disaient, bon, bah, finalement, moi, je vais en prendre 30, moi, je vais en prendre 15, moi, je vais en prendre 50. Ce qui a écrit, donc, dans ce pacte, c'est qu'on va essayer de coordonner, d'institutionnaliser un petit peu cette idée. C'est ce qu'on appelle dans la coopération renforcée. Donc, ça concernera, là, pour le coup, uniquement les pays volontaires. Donc, il y aura la France, le Portugal, le Luxembourg, qui veut participer. Mais l'idée, c'est qu'on ne fasse pas à chaque fois en faisant attendre les bateaux pendant des semaines. Donc c'est la seule chose où on prend acte, j'ai envie de dire, des 5 dernières années. Par contre, ce mécanisme de solidarité obligatoire, mais en fait flexible, sauf en temps de crise... Mais
vous pouvez m'expliquer ça, justement, parce que j'ai pas bien compris. Déjà, la solidarité obligatoire, va falloir un peu nous expliquer ce que ça veut dire. C'est quand même un bel oxymore, la solidarité obligatoire. On pensait que la solidarité c'était gratuit, d'une certaine manière. Là, c'est obligatoire, c'est un peu contraint. Donc voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et surtout... est-ce qu'on est vraiment contraint? Est-ce que si les États refusent précisément d'aider, de recevoir, d'avoir, de comme le disait Marc Sémo, de contribuer, d'apporter un soutien administratif ou financier, qu'est-ce qui se passe? Il y a des sanctions?
Et c'est ça la question. C'est effectivement, alors je reviens du coup en arrière parce que, et pour continuer ce que disait Marc Sémo, c'est qu'il faut savoir que les États qui dont la Hongrie, effectivement, et la Pologne, qui n'ont pas voulu participer, donc accueillir des réfugiés suivant cette clé de répartition de 2015, ont été condamnés par la Cour européenne de justice. Bon. Il y a aussi, évidemment, des procédures en cours contre la Pologne et la Hongrie, mais il n'y a pas de sanctions pour le moment. Et au contraire, on essaye de les cajoler. Ursula von der Leyen les a appelés hier soir, etc. Mais pour vous expliquer, donc, mécanisme de solidarité obligatoire, en fait, effectivement, ça veut dire que... en temps normal, on pourra dire, est-ce que je veux accueillir un demandeur d'asile? Et l'État recevra 10 000 euros comme prime.
Voilà. 10 000 ? C'est ça le montant ?
10 000 euros par personne adulte. Ou sinon...
12 000 pour les enfants.
Bon.
Je crois.
Voilà, donc on sait à peu près le prix d'un demandeur d'asile maintenant. Et sinon, il dira, ah ben non, moi je veux contribuer plutôt donc à parrainer des expulsions, enfin des reconduites à la frontière non volontaires. Ou j'aiderai pour la logistique, ou je donnerai de l'argent pour la coopération avec les États tiers. Bon. Sauf que la Commission a dit, bon alors si c'est vraiment cas de crise, là il faudra que ça soit un peu plus obligatoire. On vous forcera un petit peu plus. Donc si vous dites non, on vous demandera, il faudra quand même faire un effort et faire au moins 50% de ce que vous auriez dû faire. Mais après, les sanctions, c'est beaucoup moins clair.
Oui. Mathieu Tardis.
Sur le symbole de la criminalisation ou de l'interdiction de la criminalisation, c'est une recommandation à la Commission européenne, même pas ensuite un texte qui sera adopté par les États membres et le Conseil. Et puis, c'est déjà le cadre juridique actuel en Europe. C'est d'ailleurs pour ça que Matteo Salvini poursuivit. Donc cette décision-là du gouvernement à Salvini, gouvernement d'alliance, la Ligue et Mouvement 5 étoiles, était déjà illégale. Donc oui, c'est un symbole, mais qui n'emporte aucune conséquence derrière. La solidarité, c'est quand même le cœur de la construction européenne. C'est-à-dire, elle est indispensable à l'intégration européenne. Donc là aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est comment finalement avancer avec une union entre des États européens, avec des pays qui ne veulent pas jouer le jeu de européens.
Et alors
qui en profitent par ailleurs.
Et alors comment, et en particulier que vous avez les pays que vous avez évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire la Pologne et la Hongrie, et on pourrait rajouter la Slovaquie et la République tchèque,
beaucoup d'autres pays, y compris à l'Ouest.
Il n'y avait déjà pas beaucoup de leviers en 2015 quand justement la Commission a trouvé cet accord sur les clés de répartition. Est-ce qu'aujourd'hui, on a plus de leviers pour mettre la pression sur ces pays-là?
À mon avis, non. À mon avis, non, parce que, bien sûr, il y a des procédures qui peuvent être faites devant la Cour de justice de l'Union européenne, qui prennent du temps, et c'est normal d'une certaine manière, mais qui alimentent en plus derrière, ensuite, toute la rhétorique anti-européenne, anti-bruxelloise, plus précisément, de ces gouvernements. Donc il y a un peu un piège derrière. Peut-être une voie est aussi de contourner d'une certaine manière aussi les États pour aller directement vers les collectivités territoriales. On voit en Hongrie, en Pologne aussi, que les maires de Varsovie, de Budapest font partie de l'opposition. Et pour la Hongrie, c'est une ouverture très intéressante parce que les grandes villes hongroises aujourd'hui sont tenues par une opposition unie. Des partis plutôt Union civique, civile de gauche, vert, et qui ont une approche très différente. Donc c'est un premier, finalement, retournement. Et là, l'Union européenne devrait soutenir ses responsables politiques locaux qui veulent mettre en place des politiques plus participatives, inclusives, y compris envers les populations étrangères.
En donnant des financements supplémentaires ?
En donnant des financements supplémentaires. Et puis aussi à appuyer plus certainement les contre-pouvoirs traditionnels en démocratie, comme les ONG, bien sûr, la presse, qui en Hongrie notamment est sous grande pression, la justice, il y a aussi des questions en Hongrie, en Pologne, sur l'indépendance de la justice. Tout ce qui fait que ces pays ne sont pas encore totalement dans le camp des dictatures et ne le seront pas prochainement. Et bien comprendre, et bien faire comprendre finalement aux citoyens de ces pays et finalement à tous les Européens que l'Union Européenne, c'est avant tout une protection individuelle pour tous, pour les migrants bien sûr, mais pour nous aussi, les citoyens européens. Et là, il faut apprendre à parler de qu'est-ce que c'est finalement des valeurs européennes, qu'est-ce que c'est l'état de droit, qu'est-ce que c'est la démocratie, que sont les droits humains et en quoi nous, c'est on est bénéficiaire aussi de tout ça. Et je pense peut-être que la période dans laquelle on est en ce moment dans le monde, c'est-à-dire post-Covid, et finalement on y est toujours, peut-être va changer un peu les choses.
Virginie Guiraudon, ensuite Marc Sémot, puis j'aurai une question sur les retours. Mais je vous en prie, oui. Virginie Guiraudon.
Très rapidement, effectivement, dans chaque État, on voit bien que, alors je prendrai l'exemple de l'Autriche, par exemple, que ce que Monsieur Kurz, Premier ministre, dit n'est pas du tout la même chose que ce que disent les municipalités viennoises ou d'autres régions en Autriche, qu'on dit, nous, on va accueillir des gens qui sont dans le camp de Moria. Là, le problème, c'est que, justement, une négociation européenne au Conseil, ce sont les fonctionnaires des ministères de l'intérieur nationaux qui vont discuter.
Si vous voulez intégrer les villes dans les négociations, ça va déjà c'est compliqué aujourd'hui, on va pas s'en sortir.
C'est pas un problème, mais ce que je veux dire, c'est que les villes donc il y a des réseaux de villes européennes sur ces questions, mais là tout ce qui est négociation, alors il y a le Parlement européen d'un côté, mais là il faut savoir que un des problèmes des 20 dernières années sur ces questions-là, c'est que ce qu'on appelle immigration et asile, c'est en fait uniquement la gestion par des ministères de l'intérieur, par voilà les gardes frontières, la police sur ces questions-là. Donc d'une certaine manière, c'est on va donner la parole au ministère de l'intérieur des États membres, pas aux collectivités locales.
Qui en réalité en ont la charge quand une fois arrivés sur place.
Tout ce
en réalité.
Malheureusement, qui les concerne, mais ils ne sont pas compétents.
Marc Sémot.
Alors, je voudrais revenir sur un point de ce pacte, qui est plus spécifiquement la question de l'asile. Est-ce qu'il n'y a pas une urgence, et peut-être c'est peut-être plus facile d'y arriver, disons d'homogénéiser les critères de l'asile, et notamment ceux des pays considérés comme sûrs et pas sûrs, donc les pas sûrs dont les ressortissants pourraient demander l'asile. On voit par exemple en France que les premiers, les plus importants demandeurs d'asile sont en partie des Afghans, alors notamment parce qu'ils ont été déboutés en Allemagne et tentent leur chance en France, ou apparemment en France c'est plus facile, mais par exemple des Albanais, ce qui est en partie une absurdité parce que un certain nombre de pays, dont la France, on considère en partie à raison que l'Albanie aujourd'hui est un pays sûr. Est-ce qu'une des voies ne serait pas déjà au moins d'essayer d'harmoniser au sein de l'Union ces critères ?
Qui veut y aller ? Virginie Guiraudon, Mathieu Tardis ? Allez, Mathieu Tardis.
Je ne sais pas si l'Albanie est un pays sûr pour ses ressortissants. C'est-à-dire, le concept d'asile a quand même évolué, enfin, de droit d'asile depuis 1951.
Oui, c'est vrai.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus uniquement des personnes persécutées pour leurs opinions politiques, par leurs États. Donc, heureusement, ce concept s'est élargi pour répondre à la réalité de ce que vivent les réfugiés aujourd'hui. Mais pour revenir à votre point, encore une fois, le chantier du régime d'asile européen commun a été lancée en 1999 lors du Conseil européen de Tampere. Il y a eu deux séries de ce qu'on appelle de paquet asile, début des années 2000, au tournant des années 2010. Après 2015, la Commission a fait des nouvelles propositions qui ont échoué sur justement la réforme de Dublin en juin 2018. Donc là, c'est une tentative de relancer encore ça. Mais ça fait 20 ans que les États européens, enfin que l'Union européenne tente d'harmoniser les conditions d'exercice du droit d'asile. Aujourd'hui, on est censé...
Sur quoi ça bute ?
Ça bute, non pas sur les... Alors ça bute parce que ça relève des questions souvent très sensibles dans des États, dont la France, hein, et de souveraineté nationale. Ça bute aussi parce que les textes sont adoptés. Aujourd'hui, on est censé déterminer le statut de réfugié ou des types de protection internationale de la même manière dans tous les États membres de l'Union européenne.
Et le classement des pays n'est pas le même.
Les critères sont les mêmes. Ça bute parce que les États... Aucun État, je pense, n'applique réellement les textes européens tels qu'ils existent déjà. Et je pense que peut-être la première urgence, c'est de s'assurer et de donner les moyens à la Commission européenne ou à l'Union européenne en général ou à l'Agence européenne de l'asile de s'assurer que les textes qui existent déjà, les standards européens, sont réellement appliqués. On n'aura pas des situations comme Moria si les textes actuels étaient déjà appliqués.
Virginie Guiraudon.
Oui, alors effectivement, c'est un peu le serpent de mer, l'idée d'avoir une agence européenne de l'asile qui déciderait de toutes les demandes d'asile. Est-ce que ça serait d'ailleurs une bonne idée qui seraient ces agents européens qui seraient chargés des procédures, hein. Il y a effectivement dans le pacte l'idée qu'on veut quand même éliminer en 5 jours les personnes arrivant donc en Europe où les taux de reconnaissance de l'asile sont très faibles. Donc ça concernera sans doute les Albanais.
Contre combien aujourd'hui à peu près ? Combien de jours aujourd'hui ?
Alors il y a pas.
Ça dépend des États.
Non, c'est pas.
5 jours, c'est
rapide. Là, on parle de la Grèce, de l'Italie. Enfin, en Grèce, des fois, les gens sont là depuis plus d'un an, comme vous le savez.
Hein. Oui, bien sûr.
Ça fait 4 ans.
Il y en a qui sont là depuis.
Donc là, 5 jours.
Donc là, c'est 5 jours pour décider si vous allez pouvoir finalement entrer dans le processus ou si on vous considère justement comme manifestement inéligible. Alors ça, ceci dit, ça, dans les pays qui ont des taux de reconnaissance assez faibles, il n'y a pas que des gens qui viennent justement par la mer. Enfin, les Albanais, mais d'autres, hein, des gens qui viennent de Géorgie ou d'autres, ils peuvent, sans parler des Vénézuéliens, des Colombiens, ils viennent pas par la mer ou voie terrestre. Mais il y a cette idée qu'on va essayer d'éliminer d'entrée ceux dont on pense qu'ils. Mais que faire des Afghans ? Les Afghans, il y a beaucoup de pays où ils ont un taux de reconnaissance assez élevé. Il y a des retours, mais pas tant que ça. Et donc, c'est un bon exemple de personnes qu'on voit effectivement errer en Europe, qui ont fait plusieurs demandes d'asile dans plusieurs pays, qui se retrouvent à Calais, par exemple, en essayant d'aller vers l'Angleterre, qui sont depuis de nombreuses années dans des pays européens. Là, je vois pas comment le pacte peut vraiment changer cette situation.
Mathieu Tardis.
Et encore une fois, il y a le principe de réalité. On peut décréter qu'en 5 jours, on va déterminer si les personnes sont a priori éligibles au droit d'asile, parce que c'est ça qu'on dit. Donc ensuite, c'est à ces États membres, donc Italie, Grèce, de mettre ça en œuvre. Donc en Grèce, on voit, finalement, c'est le modèle de Lesbos, hein. C'est ça. Ils sont là depuis 4 ans.
Et donc ça vous paraît pas possible. C'est ça que vous dites.
Et puis,
faire en 5 jours.
On est quand même en Europe. On a des règles. Il y a les droits de la défense, il y a des règles procédurales qui s'appliquent à tout le monde. Il y a le droit au recours juridictionnel. Donc chaque personne, peu importe sa nationalité, a le droit de faire un recours juridictionnel. Donc en 5 jours, comment on organise ça ? Et puis l'autre question, et j'imagine que vous allez revenir dessus, c'est la question des retours. C'est facile aussi de décréter qu'on va renvoyer les gens, mais c'est difficile à mettre en œuvre. Enfin, derrière, et c'est ça aussi un des... finalement une absence de...
C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. Pour rappel, c'est 30% des personnes qui rentrent vraiment lorsqu'on a décidé qu'ils devaient partir.
Et encore, c'est beaucoup les personnes originaires des Balkans qui font gonfler les chiffres. Si on prend les personnes originaires d'Afrique, c'est encore moins. Et c'est ces personnes-là qui sont visées par ces procédures à la frontière. Donc, on fait quoi des gens ?
On était avec vous, Mathieu Tardis, et vous, Virginie Guiraudon. On parle de ce nouveau pacte migration et asile. Tous les vendredis, on a un partenariat avec Cartooning for Peace. On retient un dessin en fonction de l'actualité du jour. C'est notre bulle cartooning du vendredi.
Il fait le clown.
Mais on a été créés pour faire rire les hommes, mon vieux.
Assis.
Bonjour Mélanie Chalandon.
Bonjour Florian, bonjour à tous.
Et alors le dessin cette semaine, Mélanie, fait dans le registre de l'humour noir.
Mais oui, pas évident pour un caricaturiste de faire sourire son public sur un sujet aussi tragique que celui des exilés. Et c'est pourtant ce que parvient à faire, dans une certaine mesure, Pierre Krol, dit Krol, dessinateur belge bien connu. Alors c'est un dessin en noir et blanc, paru le 17 septembre dans le journal Le Soir. Nous sommes sur la place d'un marché en Grèce, sur l'île de Lesbos visiblement, puisque l'on aperçoit les ruines encore fumantes du camp de réfugiés de Moria en arrière-plan. Un marché donc d'un genre un peu spécial parce qu'il n'y a qu'un seul étalage, qu'il est tenu par un responsable du HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, et qu'on y trouve non pas des fruits et des légumes, mais, vous l'avez deviné, des réfugiés. Krol les a dessinés tout petits et nombreux, s'entassant dans des cagettes sur lesquelles on peut lire « Réfugiés 2020 ». Il fixe d'un air plein d'appréhension les deux clientes qui se sont approchées de l'étal, mais qui n'ont pas l'air très emballées. « Je vais vous en prendre 1500 », dit la première, qui n'est autre qu'Angela Merkel, sac à emplettes sous le bras et visage renfrogné. « Et pour madame ?» demande le vendeur à l'autre cliente. « Mettez-moi 12 », répond celle-ci. « Petit », précise-t-elle. Cette dame, qui semble faire ses achats à contre-cœur, c'est Maggie de Blocq, ministre belge de l'asile et de la migration. Et si l'on rit un peu jaune devant ce dessin, eh bien ce n'est pas sur le sort de ceux qui subissent la migration, mais devant la mesquinerie des pays d'accueil, incarnée ici par la ministre belge Maggie de Blocq, dont le ministère, juste après l'incendie de Moria, et alors que plusieurs pays s'étaient engagés volontairement à recueillir une part des mineurs non accompagnés, eh bien avait déclaré, je cite, qu'aucune demande ne lui était parvenue. Et devant les critiques, la ministre s'était justifiée, arguant qu'en proportion de sa population et de son PIB, la Belgique faisait autant, voire plus d'efforts que la France et l'Allemagne en matière d'accueil, et plaidait, c'était juste avant l'annonce du pacte, pour une politique européenne de la migration. Vous en parliez tout à l'heure, ça ne risque pas de mettre fin au marchandage, malheureusement. Et ce que dénonce également Krol, et qui met davantage mal à l'aise dans ce dessin, eh bien cette image, c'est cette image du marché aux réfugiés, ces êtres humains réduits à l'état de marchandises, comme une cargaison qu'il s'agirait d'écouler, et dont l'avenir serait soumis aux fluctuations de l'offre et de la demande. Car on le voit bien, il n'y a pas beaucoup de clients sur ce marché, et on ne peut s'empêcher de se demander que deviendront les invendus.
Merci beaucoup Mélanie pour ce dessin qu'on met sur le fil Twitter de Culture Monde, sur la page de France Culture également. Réaction Virginie Guiraudon et Mathieu Tardis à ce dessin. Virginie Guiraudon, Mathieu Tardis.
Moi je pense qu'il est vraiment assez formidable parce qu'effectivement la ministre belge a parlé de 12 mineurs non accompagnés, 12 ou 14 peut-être, enfin... Vous voyez, par rapport aux 10 000 personnes qui sont encore à Moria, et il y a que l'Allemagne qui a proposé d'ailleurs autant que 1500, et des personnes qui étaient déjà, dont le statut avait déjà été examiné.
Alors justement l'Allemagne, Mathieu Tardis, wir schaffen das, avait dit Angela Merkel en 2015 au moment d'accueillir ce million de réfugiés pour rassurer à la fois son opinion mais aussi peut-être l'aile droite de la CDU. Si on essaye de faire un bilan 4 ans après, est-ce que l'intégration a fonctionné? Est-ce que justement les Allemands y sont parvenus?
Je pense qu'ils ont réussi, oui. L'Allemagne s'est pas effondrée. Angela Merkel est toujours au pouvoir. Et en 2015, on avait qui? On avait François Hollande en France. Enfin, tous les gouvernements européens ont changé, sauf elle. Je pense qu'ils ont réussi. Oui. Alors après, l'intégration, c'est un long parcours, un long processus, mais les chiffres sont plutôt même encourageants.
Vous en avez quelques-uns à nous donner, justement?
Je crois que c'est la moitié des réfugiés qui sont au travail, qui travaillent actuellement. Donc, ce qui est bien, enfin, parce qu'il faut apprendre l'allemand. Il faut aussi apprendre des compétences ou voir si on peut transférer les compétences professionnelles qu'on avait dans son pays. Donc, ils ont plutôt réussi. Et ils ont réussi parce que ça n'a pas été une décision verticale de la chancelière. C'est aussi, l'Allemagne est un État fédéral. Et je pense que c'est la grande différence avec la France, c'est que toutes les parties de la société et toutes les institutions allemandes ont participé à cet accueil. Alors plus ou moins bien, des Länder qui ont été plus réticents, notamment à l'Est, mais c'est eux qui ont finalement reçu le moins de réfugiés. Et Et l'Allemagne, comme la Suède, qui a également beaucoup accueilli, ne se sont pas effondrés, et loin de là.
Autre bilan peut-être qu'on peut faire, Virginie Guiraudon, c'est celui qui concerne l'accord entre l'Union européenne et la Turquie, mais en réalité qui avait été arraché par Angela Merkel, on s'en souvient, avec ce déplacement à Ankara en mars 2016. 4 ans après, quel bilan on peut faire de cet accord-là? Et puis la question qu'on peut se poser aussi, c'est compte tenu des tensions récurrentes qu'il y a avec la Turquie, on l'a vu encore ces derniers temps, avec ses ambitions gazières dans les eaux grecques, est-ce qu'il n'y a pas un risque que cet accord finisse par s'effondrer?
Moi, je pense qu'il s'est effondré juste avant que le, enfin, juste avant le confinement d'ailleurs, puisque fin février, début mars, Erdogan a dit je ne suis pas content de la façon dont les choses se passent dans la mise en œuvre de l'accord, et a envoyé plusieurs milliers de personnes à ses frontières, à laisser partir des personnes vers Lesbos, justement, les îles grecques. Donc on est vraiment dans une situation où Erdogan peut se, quand il veut, faire une sorte de chantage aux pays européens. Mais même avant, donc fin février de cette année, on voyait que les chiffres avaient quand même augmenté. Il y avait quand même plus de personnes qui recommençaient à passer de la Turquie vers la Grèce. Donc c'est un... C'est-à-dire que après 2015, où il y a ce pic incroyable, les chiffres baissent en 2016-2017, on se dit « ah ben c'est l'accord avec la Turquie ». C'est un succès, mais on voit bien que c'est plus que fragile.
Vous ne faites pas cette corrélation, vous?
Il y a une chute, la chute en 2016, je dirais, c'est même déjà un peu avant l'accord. Oui, il y a un moment où pendant un an ou deux, on voit moins d'arrivées. Effectivement, les personnes restent en Turquie, mais c'est Erdogan qui a la main et qui peut décider de coopérer ou non. Et on l'a vu que là, la situation se dégrade, vous l'avez dit, en Méditerranée. Et en fin février, c'était très facile. Ils ont mis des gens dans des bus et les ont accompagnés à la frontière. C'est vraiment les autorités turques qui ont conduit ces gens à la frontière.
Mathieu Tardis.
Alors, on peut dire que c'est un succès à court terme si l'on prend les objectifs qui étaient assignés à cette déclaration, c'est-à-dire arrêter les arrivées en Grèce. Mais après, il y a le moyen et le long terme. Là, je pense qu'on est dans le moyen terme, c'est-à-dire que finalement, avec ce type d'accord, et on le fait avec d'autres d'une manière un peu différente, et notamment il y a coopération avec la Libye, mais sur le moyen terme, l'Union européenne a organisé sa dépendance à des pays et à des gouvernements comme celui du président Erdogan. Et c'est une question de souveraineté.
Est-ce qu'elle a d'autres choix en réalité? Parce que vous avez raison, il y a l'accord avec la Turquie, il y a l'accord avec la Libye, il y a l'accord avec le Niger, il y a l'accord avec le Maroc. Bref, ça fait des années. Et le Maroc, par exemple, ça fait quasiment 20 ans qu'on a signé le premier accord de migration, enfin qu'on appelle mobilité avec l'Union européenne, mais c'est à peu près la même chose. Donc on n'arrête pas de confier, de repousser les frontières de l'Europe et de confier à d'autres la gestion de cette politique migratoire. Mais on sait bien pourquoi. On le fait parce que on a des poussées populistes, des forces d'extrême droite qui sont là, et que le risque politique est considéré comme trop grand du côté des États et des gouvernements. C'est ça la réalité. C'est-à-dire, l'Europe a-t-elle un autre choix, Mathieu Tardis?
Clément Beaune, le secrétaire d'État aux affaires européennes, appelle à une Europe de la puissance. Elle fait ça dans la revue de l'IFRI, politique étrangère. Est-ce que là, justement, en confiant finalement à des pays tiers la gestion des flux migratoires vers l'Europe, on n'est pas en train d'organiser notre impuissance, ce qui fait que ensuite la Turquie peut faire du chantage à l'Europe, envoyer 10 000 migrants à la frontière terrestre avec la Grèce, et puis là toute l'Europe est en panique, tout le monde est en panique, les Grecs envoient l'armée. Est-ce bien raisonnable tout ça? Est-ce qu'on n'est pas en train d'organiser notre transfert de souveraineté au final? Alors je dis pas que les choses sont simples. Ouais. Ensuite, il faut que l'Europe regarde un peu au-delà de ses frontières. Deux points. Vous avez ouvert cette émission avec la Centrafrique. Centrafrique, ça a été plusieurs centaines de milliers de déplacés à l'intérieur ou à l'extérieur. Pas en Europe, forcément. Les flux migratoires et les flux de réfugiés particulièrement s'organisent au niveau régional. L'Europe est finalement assez peu concernée par ces flux de réfugiés. C'est moins de 10% des réfugiés dans le monde qui sont en Europe. On peut dire que c'est moins de 10% de la population mondiale qui est dans l'Union européenne, mais c'est 25% de la richesse mondiale, l'Union européenne. Les flux migratoires, au-delà des réfugiés, sont avant tout régionaux. La plupart des personnes qui rentrent dans l'Union européenne ces dernières années, qui ont des titres de séjour, sont les Ukrainiens. De loin, c'est 3 fois plus de titres de séjour délivrés à des Ukrainiens qu'à des Syriens sur 2017-2018. Et parce que c'est sont nos voisins. Donc, il faut aussi que l'Europe soit un peu plus intelligente, regarde au-delà de ses frontières. Les questions politiques internes, je les entends. Il faut aussi voir dans quelle mesure elles sont pas non plus créées par un discours sur l'immigration et par, quelque part, le chaos qu'il y a eu en 2015. C'est-à-dire que si on organise un peu mieux l'accueil et l'arrivée des populations, notamment réfugiées, mais pas que, je pense que les Européens seront plus rassurés. Et il y a aussi une partie des populations européennes qui est extrêmement ouverte et mobilisée à l'ouest comme à l'est.
Virginie Guiraudon. On arrive presque au terme de l'émission.
Oui, tout à fait dans cette lignée-là. Il n'y a pas d'autre choix. Si, le choix...
C'est pas ma position, hein. Je préfère une position.
Est-ce qu'il y a-t-il d'autres choix? Alors, c'est la commissaire chargée d'immigration qui a dit il faut dédramatiser la question. Alors, moi, je la prends au mot. Dédramatisons. C'est-à-dire que là, on s'est mis... L'Europe, les institutions européennes en elles-mêmes se sont mis dans une situation où ils ont peur qu'il y ait des gens qui arrivent. Donc, Madame von der Leyen a été fin février à la frontière gréco-turque en disant nous sommes solidaires avec les Grecs, c'est terrible, comme si elle avait peur de ces quelques milliers de personnes. Donc, ça donne un levier en fait aux pays d'origine et de transit. Si on disait même pas peur, il y a 0,7% de la population européenne qui sont des réfugiés. L'Europe n'accueille que 10% des réfugiés dans le monde, c'est pas dramatique, effectivement, et parlons peut-être, oui, d'immigration plutôt que de se focaliser sur cette situation. Si elle avait été Ursula von der Leyen en disant, bon, il y a 2000 personnes qui sont là, on va s'en occuper, de toute façon, il faut qu'on gère les 45 000 personnes en Grèce actuellement dans des camps, de renverser cette vapeur. Mais là, les pays d'origine et de transit ne sont pas bêtes, ils savent qu'il y a ce levier qui est cette peur alimentée par le populisme, tout ce que vous voulez, mais aussi par toutes sortes de gouvernements, y compris le nôtre, et qui leur donne en fait un pouvoir, une puissance qu'ils n'auraient pas si on regardait les choses un petit peu plus posément.
Merci beaucoup à tous nos invités. Virginie Guiraudon, merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin. Mathieu Tardis également. Merci également à Marc Sémo, notre partenaire du Monde. Comme chaque vendredi, on se retrouve la semaine prochaine. Et comme je le disais à nos auditeurs, la semaine prochaine, donc semaine africaine. On parlait de la Centrafrique au début de cette émission. On parlera de bien d'autres pays, ce sera la semaine prochaine.